Salut les joueuses, salut les joueurs. On approche de la fin du festival des Bretzels et des Jeux édition 2018. Et je suis toujours avec Père Castor.
Salut Flavien.
Alors je dis toujours, mais en fait, depuis ce matin, le président nous l'avait promis, il a repris le micro pour l'après-midi pour quelques interviews, mais il est de nouveau parti.
Voilà.
Voilà, comme un lâche, pour repartir dans sa Lorraine natale. On approche donc de la fin et on recevra, la dernière interview sera de l'organisation des Bretzels et des Jeux, mais pour clore les interviews de professionnels sur le salon, on reçoit Serge de DTDA Games. Salut Serge.
Bah bonjour.
Alors, première question, DTDA.
C'est l'acronyme de quoi, ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ah, c'est un secret.
C'est un secret.
DTDA, c'est notre secret à nous, et donc on va pas le divulguer. Mais par contre, qu'est-ce que c'est?
On le prononce à la française ou à l'anglaise? DTDA?
Ah non, nous on le fait à la française. Même quand on parle en anglais, on le fait quand même en français. C'est notre, c'est la touche française, quoi.
Ouais, il y a Games qui fait déjà anglais, donc.
Ouais, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc non, et c'est même en fait à travers nos jeux, on aime bien aussi, on met en avant cette touche française justement qui, je pense, a son charme. Donc, qu'est-ce que c'est DTDA Games? C'est un tout petit éditeur. Nous, on est trois associés. Il n'y a que deux personnes qui travaillent à plein temps sur les jeux. Et pour le moment, on a sorti deux jeux de société. Le premier, c'est Light Hunters Battalion of Darkness. Encore un jeu qui est en anglais. Hein, donc, c'est pour ça qu'on garde le DTDA en français. Et le second, c'est Ephemeris, qui sortira sur Kickstarter très prochainement.
Donc les deux jeux étaient en présentation pendant le week-end.
Alors les deux jeux étaient en présentation pendant le week-end. Donc on a fait tourner les deux. Le premier, Light Hunters, donc sur la version commercialisée, et le deuxième jeu sur sa version en prototype, avec des petits ajustements qu'on a fait pendant le week-end parce que c'est toujours intéressant.
Et alors le premier jeu, vous l'aviez sorti aussi via Kickstarter?
Le premier jeu avait fait aussi, on l'avait également sorti via Kickstarter parce que c'est assez logique parce qu'en fait vu la taille de notre société d'édition, en fait on n'a pas vraiment le choix.
Au niveau financier, tu veux dire?
Au niveau financier, et c'est le seul moyen qu'on a et qu'on avait pour sortir un jeu de société. En fait, sans ça, tout simplement, on ne ferait pas de jeu de société. Voilà.
C'est quand que vous vous êtes lancé, à peu près?
Alors, nous, on a une boîte qui a moins de 2 ans. On s'est lancé, le premier Kickstarter était en mai dernier. Donc, et on a mis 6 mois pour...
En mai 2017, ouais. Donc.
Ouais, en mai 2017. On a lancé la société en novembre 2016. Donc on a mis 6 mois pour faire le premier jeu et voilà. Et donc ça fait moins de 2 ans et on est sur notre deuxième jeu. Voilà.
Alors Light Hunter, c'est de qui en fait?
C'est-à-dire
L'auteur.
Ah, c'est moi-même.
D'accord, parce que sur la boîte, j'ai regardé un peu la boîte, c'était hier en arrivant. Je l'ai pas vu en grand, alors c'est peut-être...
C'est écrit Sergio Matsumoto, qui est mon nom d'auteur. Voilà. Ouais. J'ai choisi d'avoir un pseudonyme parce que j'ai pas envie de me mettre en avant en tant que personne physique.
Ok. Et donc Light Hunters, tu disais, c'est le fruit de combien de temps de travail? Quand est-ce que tu t'y mets en tant qu'auteur, justement?
Alors, pour Light Hunters, on avait commencé en décembre, qui est donc notre premier jeu. C'était en décembre 2016. On a fini le premier prototype en début février 2017. Ensuite, on a fait toute la création artistique avec Manon, qui est donc l'illustratrice, de février à mars.
Qui est aussi
après,
une associée, c'est ça?
Qui est aussi une associée, donc elle fait partie des deux personnes à plein temps donc avec moi.
D'accord.
Sur la création des jeux.
Et c'est une direction artistique en interne.
Voilà, c'est ça. Ouais, et en gros, c'est la grande force, je pense, hein, de notre studio, c'est que nous, lorsqu'on crée des jeux, en fait, on fait les illustrations. En fait, on crée l'univers graphique et on crée le gameplay en même temps. En fait, c'est vraiment une collaboration qui, je pense, est assez différente des autres éditeurs qui font d'abord le gameplay, qui signent un gameplay et ensuite font les illustrations et l'univers graphique qui découlera de ce gameplay.
Donc là, vous démarrez tout en même temps?
Pas tout en même temps. En fait, moi, je viens avec... On définit, en fait, c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est un peu un jeu de ping-pong. Au début, on définit une idée. On dit, quel jeu on a envie de faire? On valide une idée ensemble. Ensuite, on se dit, ça sera quoi l'univers? Et avec cet univers-là, moi, je commence à faire une première mouture du gameplay. Je la présente à Manon, on en discute, on en échange. Après, il y a toute la phase où on fait beaucoup d'ajustements du gameplay, mais qui est assez logique. Et une fois qu'on a un prototype qui commence à tenir la route d'un point de vue gameplay, là on applique ensuite l'univers, on retravaille l'univers et on applique l'illustration et le matériel ensemble. Et on ajuste, on peut ajuster le gameplay. C'est là aussi que je dis que c'est vraiment du ping-pong, c'est que on peut ajuster le gameplay par rapport au matériel et l'inverse est également possible.
Du coup, il n'y a pas le risque des fois de faire dans un sens et de défaire dans cette partie de ping-pong, comme tu dis ?
Si, bien sûr, mais je pense que c'est notre force et c'est ce qui fait qu'on ne fait pas des jeux comme les autres. En tout cas, on espère le faire, on essaye. Et donc oui, ça peut servir l'un ou l'autre. Par exemple, sur Light Hunters, il y a des petits soucis d'ergonomie, par exemple. Des cartes, dans la lisibilité des cartes. Après, c'est un choix qu'on a fait.
Dont vous avez conscience, quoi. C'est pas.
Voilà, qu'on a conscience, on le sait parce qu'on l'a fait tester. Les gens ont dit, ouais, il y a un petit problème de lisibilité sur certaines cartes ou certaines choses. Mais nous, on a pris la décision, on a le parti pris de favoriser telle chose ou l'autre.
Parfois de la lisibilité, du coup, mais voilà. Parce qu'il y a un intérêt plus fort à côté.
Voilà, dans le design ou dans l'univers ou dans l'immersion, parce que nous, ce qu'on aime aussi, c'est créer des univers où le joueur va être immergé.
Oui, donc c'est vrai que l'univers visuel est assez fort. Hein. Moi, j'ai été frappé par les roll-up en arrivant parce que je n'avais pas entendu parler de DTDA, ni du Kickstarter, ni rien, ni des jeux. Et par contre, moi, ce qui m'a frappé, effectivement, c'est le visuel des roll-up qui sont assez forts. C'est un univers visuel assez marqué, quoi. Du coup, c'est Manon, c'est ça qui s'occupe de.
Voilà,
même
c'est,
si vous êtes en discussion, mais non, ça attire l'œil, quoi.
Ouais, c'est Manon qui gère vraiment cet aspect-là. Là où je dis qu'on est en discussion, c'est que justement, en fait, on va adapter le gameplay ou l'univers graphique en fonction de l'un ou de l'autre. Mais après, vraiment, elle a une grande liberté, et c'est aussi ça notre force, c'est qu'elle a une grande liberté sur la création artistique, qui est pareil, qui, je pense, dans les autres sociétés d'édition, est un peu plus, fermée.
Enfin, c'est-à-dire, ouais, c'est plus stéréotypé, peut-être.
Voilà, il y a plus de contraintes. Nous, on fait beaucoup de choses à l'encre de Chine, à l'aquarelle, avec peu de couleurs.
Ouais, le noir et blanc est très marqué, hein, chez vous.
Voilà, et clairement, je pense, et c'est aussi pour ça qu'en fait, on le lance en Kickstarter et qu'on a fait aussi notre société d'édition. C'est parce que si on était parti voir une autre boîte d'édition avec nos idées, elles n'auraient pas été validées telles quelles.
Ça sort trop des sentiers battus ?
Je pense, ouais.
Bah, en tout cas, ouais. Enfin, moi, je sais, les auditeurs savent maintenant que moi, j'aime bien les trucs clivants. Que, au pire, on n'aime pas, mais au moins, ça provoque quelque chose. Et justement, qui n'est pas lisse et qui ne ressemble pas à trop de trucs. Là, je pense que ça va déplaire à certains de manière forte, mais aussi plaire dans l'autre sens. Et que finalement, il n'y a pas forcément un juste milieu. Et moi, je sais que je préfère des émotions comme ça plutôt que, justement, ça plaît, entre guillemets, à tout le monde sans que ça émerveille personne, quoi.
Voilà, on n'aime pas trop le côté consensuel que justement, qu'on évite. On préfère prendre des risques. Et
ça paye ou pas après.
Et ça paye ou pas. Mais voilà, au moins, il y a un parti pris, il est fort. Là où les gens sont assez unanimes, c'est qu'au moins, c'est vraiment joli, c'est vraiment beau. Même le matériel, on fait vraiment très attention au matériel. Et nous, on fait des jeux qui sont des objets, en fait, qui sont des objets d'art à part entière. Ou du moins, on essaie de le faire, on les pense comme ça. Et c'est pour ça que pour nous, le matériel et l'univers est vachement important. Et c'est pour ça aussi que Manon a une grande liberté et que c'est ça qui rend le résultat si joli.
Et donc, tu disais essayer de ne pas être consensuel justement dans l'univers, dans les illustrations, dans tout ce que ça peut évoquer aussi au niveau matériel, objet, etc. Et d'un point de vue justement des mécaniques, où là, c'est toi qui apportes ça. Quelle mécanique compose un peu Light Hunters par exemple, ou l'autre, tu m'as dit le nom, c'est
Ephemeris.
Est-ce qu'il y a aussi cette volonté là de se démarquer, ou bien c'est quelque chose de plus classique parce que finalement les mécaniques, on peut pas inventer des trucs toutes les deux minutes?
Alors ça va dépendre, mais en gros, on a vraiment une idée qui est principale sur l'ensemble de nos jeux, c'est qu'avec des mécaniques simples, on peut faire des jeux évolués. Et en gros, nous, on part vraiment sur cette dynamique là. C'est-à-dire que tous nos jeux, on va épurer les mécaniques comme on épure le design pour avoir des jeux simples, qui sont simples à expliquer, qui sont simples à mettre en place. Et après, si jamais on veut aller plus loin, si les joueurs veulent aller plus loin, il y a suffisamment de profondeur, enfin on essaie d'en apporter pour aller plus loin. Mais c'est vraiment, c'est la ligne directrice. c'est vraiment épurer le gameplay et épurer le design.
Et donc peut-être pour justement d'abord pour Light Hunter, ça c'est quoi un peu en termes de type de jeu, de mécanique?
Alors nous après on est beaucoup inspiré du jeu vidéo. D'ailleurs je pense que en gros les gens qui connaissent bien les jeux vidéo comprennent très rapidement nos mécaniques.
De quel jeu vidéo? Parce que
voilà,
jeu vidéo,
justement, j'y viens. On est beaucoup influencé par tous les jeux qui sont comme Hearthstone, Overwatch, League of Legends. Moi, je joue beaucoup à StarCraft ou à ce genre de jeu.
Ouais, là, t'as cité des genres très différents. Pour le coup, Hearthstone, c'est un jeu de cartes. Overwatch, c'est du FPS.
Voilà. Mais en fait, par exemple, pour Light Hunters, on va retrouver dans Hearthstone, en fait, l'augmentation des points d'énergie au fur et à mesure de la partie.
Mana, ouais.
Voilà. Par contre, on n'a pas pris le deck building de Hearthstone. Après, dans Overwatch, ce qu'on retrouve, c'est les 5 compétences qu'ont chaque personnage et dont l'ultime qui est très
fort. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est ce qu'on appelle un hero shooter, c'est-à-dire que c'est un FPS par équipe. Mais la différence, et ce qu'a apporté Overwatch, c'est que chaque héros a une capacité spéciale et un type de déplacement spécial, etc.
Voilà. Et en plus, il y a le format par équipe qu'on ne retrouve pas dans Hearthstone et qui est un peu différent dans les MOBA. Et ensuite, on s'inspire aussi des MOBA dans tout ce qui est en fait les classes, c'est-à-dire les classes offensives, défensives, qui vont avoir des magies, qui vont plutôt avoir tel type de compétences, etc. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que on s'inspire de tous ces jeux-là parce que c'est les jeux qu'on connaît le mieux. Et en fait, c'est vrai qu'on joue beaucoup plus aux jeux vidéo qu'aux jeux de société. On s'inspire de tout ça, on les épure au maximum et surtout, on essaie de les adapter au mieux aux jeux de société. Voilà. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et pour ce qui est de Ephemeris. Là, c'est plus un jeu. C'est un jeu qui est plus influencé des jeux comme Warcraft 3, toujours un peu de League of Legends ou de Starcraft, qui ont des jeux beaucoup plus de stratégie et de tactique. Bon, après, c'est du tour par tour, donc il n'y a pas le côté temps réel qu'ont ces jeux-là, mais où en fait chaque erreur de tactique ou de stratégie peuvent être vraiment fatales.
Voilà. D'accord.
Et là, c'est plus un jeu 1 contre 1 ou 2 contre 2, mais il n'y a plus le côté par équipe qu'il y avait dans Light Hunters.
Ouais, okay.
Et la partie thématique pour Ephemeris?
Pour la partie thématique, donc ça c'est Manon justement qui a amené cet univers-là.
C'est quoi justement comme univers?
Ça se passe lors de la conquête du Nouveau Monde, donc pendant la Renaissance, Moyen Âge, Renaissance,
moderne, ouais.
Voilà. Et sauf que du coup ils ont trouvé comment utiliser les vents solaires. Et donc, ils les utilisent non pas pour conquérir le nouveau monde sur Terre, mais ils le font dans les cieux. Voilà.
Ouais, il y a un côté
SF.
Uchronie, c'est comme ça qu'on appelle ça. Hein, c'est ça, hein, l'Uchronie. C'est le moment où tu fais dévier l'histoire par un truc qu'il aurait pu faire autrement.
Voilà, dans l'histoire, c'est comme ça. Et donc, visuellement, comment ça se traduit? C'est donc des personnages d'époque. Avec des navires, donc des galions et des frégates d'époque qu'on va pouvoir contrôler, mais sur la voûte céleste, c'est-à-dire avec des constellations, des planètes et voilà.
Il n'y a pas d'univers partagé entre Light Hunters et Ephemeris?
Non, on veut des univers différents. Voilà, on fait vraiment des univers différents. Ça fait partie aussi de notre façon de travailler, c'est que on se garde la possibilité de faire d'autres jeux avec la même entre guillemets licence, c'est-à-dire on a pensé déjà à d'autres jeux pour Light Hunters qu'on garde en tête, mais là on préfère développer des univers qui sont vraiment différents. Et d'ailleurs on a déjà l'idée du prochain jeu qui aura encore un univers qui aura rien à voir et qui sera un type de jeu qui n'a rien à voir, parce que là on a déjà avec Light Hunters et Ephemeris on a deux jeux qui sont très différents. Le premier c'est vraiment un jeu d'équipe et le deuxième c'est vraiment le mode le meilleur et le 1 contre 1 qui est vraiment un mode d'affrontement, enfin, et de stratégie un peu, c'est des échecs améliorés, enfin voilà, il y a vraiment c'est vraiment au tour par tour et vraiment très très stratégique. Et le prochain et le jeu d'après, ce sera un jeu d'aventure où on va vraiment vivre des aventures. On aura des lieux, des salles, des coffres, un peu comme Unlock. Et en fonction de l'aventure qu'on va choisir, on va utiliser telle ou telle salle et on va pouvoir se balader. Enfin voilà, on aime bien créer des histoires, on aime bien créer des aventures. Et voilà, donc le prochain jeu, ça sera vraiment une thématique.
Et on va retrouver une identité graphique entre ces différents jeux.
Alors de toute façon là, c'est sûr que ce sera Manon qui va
rester aux illustres,
qui va faire ses illustrations parce que c'est comme ça qu'on travaille. Et de toute façon elle a une patte qui est particulière. On voit en fait ils sont très différents d'un point de vue illustration, d'un point de vue univers, les différents jeux qu'on produit, mais on sent que la patte est du même auteur. Voilà.
Tu sais quelles sont un peu ses inspirations? Alors ce sera sans doute elle la mieux placée pour répondre, mais si tu as des vagues idées.
Là, par exemple, pour éphémérer, c'était La planète au trésor, qui est donc
l'adaptation de L'île au trésor voilà. par Disney.
Voilà, c'est ça, exactement. Pour Light Hunters, Enfin, c'est vraiment des BD à l'encre de Chine. Je voudrais pas dire de bêtises, mais voilà, on peut imaginer. Enfin, il y a pas mal de BD. Enfin, c'est plus de la BD pour le coup. C'est plus BD à l'encre de Chine qui ont inspiré Manon. Mais c'est vrai qu'elle sera beaucoup mieux placée que moi pour en parler.
Mais d'accord. Et donc, tu disais, la création de cet univers passe par le graphique. Est-ce qu'il y a aussi, parce que c'est quand même porteur d'identité forte, est-ce qu'il y a une espèce de lore qui est créée avant de mettre les mécaniques, une espèce de, on a eu hier Didier Jacobé qui pour Exodus, etc., fait presque une Bible, il appelle ça la Bible, avec tout un univers, etc. Est-ce que vous avez de l'écriture aussi d'univers, ou bien c'est plus, vous partez de ça, vous dites un univers, et après vous développez illustration et mécanique, mais sans approfondir le lore qu'il y a autour?
Oui et non. Oui et non. Oui, dans le sens où on le fait, on en discute beaucoup, on se dit vers quoi on veut aller, si on veut aller plus loin, à quoi on penserait. En fait, on y pense, mais on va pas forcément le mettre sur, on va pas forcément te
le
mettre
formaliser,
sur, voilà, le formaliser. Et voilà. Donc c'est pour ça, c'est un peu oui et non. Mais nous, forcément, de toute façon, je pense qu'on est un peu obligé d'aller un peu plus loin. Surtout, nous, on aime bien les univers, donc on est obligé d'aller plus loin. Mais c'est vrai qu'après, on le formalise pas tel quel. D'accord. Mais on sait très bien, par exemple, pour Light Hunters, le prochain jeu, on sait très bien vers où on va. Il y a vraiment une suite logique. C'est pas, on a fait Light Hunters, on s'est arrêté là. Et en fait, maintenant, on rajoute de l'histoire, on brode autour. Et voilà, c'est pensé à l'avance quand même.
Ok. Et là, le jeu est présent chez Philibert.
Oui.
Il y a une volonté de passer par Kickstarter puis en boutique?
Globalement, on aimerait. Enfin, si on peut le faire.
Vous avez un distributeur?
Oui, c'est MAD. C'est MAD Distribution. Okay. Et clairement, nous, c'est un réel plaisir, en fait, d'être distribué. Pour Light Hunters, c'était pas du tout gagné. C'était notre premier jeu. On était pas du tout connu, comme
après,
tu le dis.
Après, hein, MAD a commencé aussi il y a peu. Et j'ai l'impression, en tout cas, qu'ils n'hésitent pas à aller vers. C'est l'impression que j'ai, en tout cas.
Peut-être un peu atypique.
Vers des éditeurs, qui sont peut-être pas forcément les plus gros. Alors, il y a Superlude, qui est déjà plus connu du monde ludique. Mais il y a des plus petits qui ont des projets plus atypiques, j'ai l'impression, chez MAD, de manière générale.
Ouais, comme Maz, avec Orquest, ce genre de jeux qui sont. Ouais. Justement, je pense que c'est vraiment parce qu'on a rencontré plusieurs distributeurs et c'est vrai que MAD est un distributeur qui nous correspond bien, qui justement
votre esprit,
ouais, et dans notre esprit, ils sont assez jeunes sur ce secteur-là. Ils ont d'autres secteurs sur lesquels ils sont beaucoup plus anciens, mais ils sont assez jeunes aussi sur le secteur du jeu de société. Et du coup, il y a une vraie bonne synergie qui se crée entre eux et nous parce que on a un peu les mêmes idées et on a un peu la même vision en tout cas. Et c'est vraiment intéressant et ça nous fait vraiment plaisir. Et comme je disais, c'est vraiment une chance pour nous d'être distribué, d'être par exemple disponible sur Philibert, sur Internet. Enfin, nous, par exemple, sur notre carte de visite, on a mis, si vous voulez le trouver, notre jeu, il est disponible sur Philibert parce que, voilà, avant nous, si on cherchait un jeu, on allait sur Philibert ou potentiellement Amazon, mais bon, c'est quand même moins spécialisé. Et c'est vrai que du coup, avoir nos jeux sur ce site-là, pour nous, c'est un réel plaisir. Et c'était pas du tout gagné à l'avance. Et d'ailleurs, même pour Ephemeris, ça va dépendre beaucoup de la campagne Kickstarter.
Light Hunter, c'était combien qui était demandé?
Alors, on avait demandé 10 000 euros, on en a eu 30 000, donc on a été financé à 300%. Ce qui ça représentait 1000 personnes.
Ok, ouais, quand même.
1000 personnes, c'est quand même pas mal. Ouais, et donc, il y avait vraiment la moitié.
C'était un palier à 30 euros.
C'était un palier, il y a un panier moyen à 30 euros. En fait, c'était entre 20 et 40, du coup, ça faisait un panier moyen à 30 euros.
D'accord, ouais.
Et en plus, ce qui est bien pour nous, c'est qu'il y a la moitié, c'était des Américains. Et pour nous, c'est le seul moyen de toucher ce public-là, par exemple.
Ouais, d'accord, ouais, qui sont intéressés au projet. C'est vrai que c'est des plus petits projets que ceux dont le monde ludique peut parler, que ce soit les monolithes, les mythiques ou quoi.
Oui.
Mais c'est cool de voir en fait que des petits projets. Je sais pas si vous aviez besoin, parce qu'il y a toujours cette question de sur Kickstarter, on demande tant, mais on a besoin de plus. Là, quand vous demandez 10 000 euros, est-ce qu'il y a les mêmes stratégies que Conan qui demande 80 000 alors qu'en fait il serait déçu à 80 000? Ou bien c'est on demande vraiment 10 000, à 10 000, on est content, on le fait, et après c'est que du bonus?
Honnêtement.
Sachant que, je veux dire, tout le monde aujourd'hui s'est accepté.
Sinon, il y a de la communication qui est le fait de dire voilà, on a été fondé, etc., en temps et temps de minutes, d'heures ou de jours.
C'est aussi une question de com, etc. Mais...
Non, mais je vais vous répondre très honnêtement. Si on finance notre projet, c'est l'essentiel et on sera hyper content parce que c'est pourquoi on le fait. Maintenant, si on arrive à toucher... En fait, nous, ce qui nous importe, c'est de se dire, par exemple, Light Hunters, 30 000 euros, en vrai, ça représente pas énormément d'argent pour une société.
Ouais.
Bien, nous, on vit pas avec, on peut pas vivre un an avec 30 000 euros. Bien par sûr. Contre, se dire, on a réussi à vendre quand même 1000 jeux, alors qu'on était inconnus au départ. En fait, nous, on va plus compter en termes de nombre de ventes plutôt qu'en argent généré.
Ouais.
Et de se dire
que disait Benoît Bagnier aussi hier de la boîte de jeux, que c'est plus important de regarder le nombre de backers que le prix final.
Voilà, c'est ça, parce que effectivement, il y en a qui font des énormes scores, qui font plusieurs millions, mais en fait, le pledge de base, il est à 100 euros, il y a des pledges à 300 euros. Donc, alors, ils vont faire 3000 personnes, mais ils vont avoir un chiffre qui est énorme. Et nous, de se dire qu'on fait 1000 personnes, alors qu'on a en plus, on a un jeu qui est un peu atypique sur Kickstarter, qui a un panier moyen à 30 euros, ce qui est vraiment pas, avec un univers qui sort un peu nulle part, et notre société qui sort de nulle part aussi. Enfin, nous, en fait, c'est énorme pour nous. Enfin,
ah ouais,
c'est
énorme.
C'est pas qu'une question d'argent. Après, évidemment, si nous, on peut vivre de ça, grâce à Kickstarter et grâce à la distribution derrière, bah, évidemment, c'est un plaisir, parce que ça va nous permettre de faire les jeux d'après. Parce que là, à l'heure actuelle, Light Hunters nous a pas permis et nous permet pas encore de vivre de notre passion, quoi.
Ça permet de continuer sur Ephemeris après.
Voilà, c'est ça. Mais voilà, faut se rendre compte que c'est beaucoup d'investissement et c'est vraiment loin d'être évident financièrement, quoi. Vraiment.
Et justement, aujourd'hui, se lancer dans le monde du jeu de société, alors que effectivement, c'est un secteur qui a beaucoup grossi ces 10 dernières années. Je sais pas, vous avez quoi comme background? Un peu, t'as parlé des jeux vidéo. Moi, je trouve ça intéressant, des gens qui viennent du jeu vidéo. Alors, il y a plein de contraintes du jeu physique qui sont à prendre. Enfin, je parle en termes de joueurs. Je sais pas si t'as bossé dans le jeu vidéo ou quoi, mais.
C'est justement ce que j'allais dire. Alors, en fait, nous, on vient du, que ce soit moi ou Manon ou Marine, qui est donc la troisième associée. Ouais. Nous, on vient du digital. C'est-à-dire, en fait, on fait des sites internet et des applications mobiles, etc., pour des gros en général.
Ouais.
Donc nous, on vient vraiment de ce milieu-là.
Ouais.
Là où je disais qu'on connaît mieux le jeu vidéo, c'est parce qu'en fait, on joue beaucoup plus au jeu vidéo
pratique,
et on joue beaucoup, beaucoup et depuis très très longtemps et on joue tous. Et voilà, donc on vient plus du digital, mais on connaît très bien. Enfin, du coup, on sait bien comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, ce qu'on essaie de faire maintenant,
Je reprends juste parce que sinon, on aura la remarque du digital ou du numérique. Ouais. Sinon, on est sûr d'avoir la remarque, donc ça fait déjà.
Ouais. Non, ben oui. Effectivement, mais ce que je voulais dire, c'est que
après,
du coup,
si c'est pour des jeux sur téléphone portable,
oui, là, ça peut marcher.
C'est des jeux pour
et donc,
des digital,
donc ce background, du coup, ouais, de joueurs de jeux vidéo, t'arrives à le retransposer, ouais.
Voilà, vraiment, et vraiment, on s'inspire de tout ce qu'on a fait avant. Par exemple, se dire que l'ergonomie de la boîte, l'ergonomie aussi de nos jeux. Est vraiment tiré de ce qu'on faisait avant dans le digital. Il y a vraiment une cohérence. Et justement, ouais. C'est aussi ça qui, en fait, quand on voit le matériel qu'on a, c'est pas du matériel d'imprimeur, c'est plus du matériel des gens du numérique ou du digital qui l'ont appliqué à du matériel physique. Et du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on fait un peu le chemin inverse maintenant, c'est qu'on imagine des gameplays, que ce soit pour Light Hunters ou Ephemeris, qui sont jouables en ligne. Et par exemple, pour Ephemeris, on a une démo en ligne qui est déjà accessible, où on peut jouer dans la version 1 contre 1 du jeu, sur le même écran, pour l'instant, parce que c'est juste une version de démo.
Ouais.
Et on peut faire l'intégralité du jeu, même jusqu'à finir le jeu en ligne.
C'est sur votre site ?
Sur notre site, sur le navigateur directement. On va aussi mettre à disposition l'exécutable pour pouvoir le télécharger, etc.
Okay.
Et à terme, donc c'est un des paliers, par exemple, du Kickstarter de Ephemeris. Si on atteint un certain palier, on fera une vraie version en ligne, multijoueur, avec un classement en ligne où on peut rechercher une partie et jouer en ligne tout seul à Ephemeris.
D'accord. Voilà.
Okay. Donc on fait un peu le chemin inverse. Et après, voilà, on imagine aussi des choses pour Light Hunters avec un mode 1 contre 1 qu'on peut aussi appliquer au mode en ligne. Et après, faire des passerelles en disant ah bah t'as bien aimé par exemple Ephemeris ou la Hunters, t'as jamais joué aux jeux de société avant, ben en fait essaye, peut-être que ça te plaira aussi bien de jouer à des jeux de société. Et voilà, en fait on essaye aussi bien de toucher le public, parce que nous on est assez proche de ce public là aussi, de joueurs de jeux vidéo mais qui connaissent pas forcément le jeu de société, et du coup essayer de les amener aussi dans l'univers et dans la partie jeux de société. Et inversement, les joueurs de jeux de société, leur dire ben aussi la version en ligne elle peut être cool parce qu'elle est pensée en ligne et elle est différente. Enfin, l'interface est différente et elle est pensée pour un vrai jeu de un vrai jeu vidéo.
Et alors pour terminer justement, ouais, je disais c'est un marché qui est quand même concurrentiel aujourd'hui. Se lancer aujourd'hui dans le, parce que c'est toi l'auteur, c'est Manon qui illustre, c'est vous qui êtes éditeur. Comment on se lance aujourd'hui en tant que petit auto-éditeur comme ça? Le financement participatif, t'as l'impression que c'est une obligation aujourd'hui quand on est quand on
sans démarre. Sans KS, ça serait pas possible. Hein.
Clairement, ouais. Clairement, ouais. Sans KS, c'est impossible, c'est même pas imaginable en fait. Du coup, depuis qu'on s'est lancé, on a pas mal de gens qui nous demandent en fait des petits auteurs qui nous disent voilà, j'ai un prototype, j'aimerais bien le faire tourner, mais je sais pas trop comment faire. J'imagine que tous les auteurs...
Ça, c'est par mail ou c'est en salon?
Ça dépend. On a même aussi un petit atelier à Paris où okay. En fait, on peut aussi faire des prototypes. Donc du coup, les gens viennent nous voir aussi à Paris. Donc c'est un peu partout, mais c'est pas mal par mail. Et c'est vrai. Et du coup, leur dire, bah, en fait, ouais, Kickstarter ou les sites de financement participatif, c'est quasiment une des seules chances parce que c'est très dur.
Une trésorerie, etc. De base, à apporter une trésorerie. Et puis aussi au niveau de la communication, j'imagine, quand on commence.
Ouais, c'est très très dur. Et puis, aller voir les éditeurs, c'est pas donné à tout le monde, quoi. En tant que petit auteur avec un petit prototype, faire la tournée des festivals.
Vous avez essayé d'approcher des éditeurs?
Nous, on n'a pas essayé avant.
Non.
Non, nous, on ne l'a pas fait parce que, en fait, on voulait faire notre jeu.
Ouais.
Et voilà.
On n'avait pas envie de se compromettre et d'accepter le regard de quelqu'un d'autre.
C'est ça. On préfère, et on préférait et on préfère toujours faire 10 fois moins de ventes, mais faire notre jeu, que faire le jeu de quelqu'un d'autre, même si c'est un meilleur succès commercial.
D'accord. C'était la crainte d'avoir cette censure, entre guillemets, pour, ouais, notamment pour l'univers graphique.
Sans parler de censure, parce que les éditeurs, c'est des discussions, mais en tout cas, quand tu arrives avec un univers fort, des illustrations et tout, et que c'est des compromis, quoi. Pas forcément de la censure, mais en tout cas de faire des compromis, quoi.
Je pense que les compromis sont obligatoires. Déjà que nous-mêmes, on fait des compromis avec nous-mêmes. Donc, c'est... dès qu'on travaille avec une personne de plus, de toute façon, il y a forcément des compromis à faire. Ah, et pour l'instant, on n'a pas envie d'en faire, pour l'instant.
Et là, a priori, ça a marché pour Light Hunters, donc...
On espère, mais c'est vrai que notre fragilité, c'est que Ephemeris fait une mauvaise campagne. Ça peut s'arrêter aussi quasiment du jour au lendemain, quoi. Enfin, du coup, on fera autre chose, on le fera autrement, mais ça sera dur. Et c'est la chance qu'on a, c'est vraiment la beauté dans l'univers qu'on vit. Enfin, vraiment, on a vraiment la chance parce qu'il y a, je pense qu'il y a 15 ans, on pouvait pas le faire ça. Clairement, un petit auteur, il pouvait pas lancer comme ça son jeu de société sur le marché sans avoir un distributeur qui est là depuis 15 ans. Et c'est vraiment beau qu'on puisse le faire à l'heure actuelle. Alors je sais que ça peut déplaire en fait justement aux anciens qui sont là depuis longtemps. Mais voilà, nous c'est la seule façon pour nous de le faire, et pour les joueurs c'est sans doute la seule façon de voir des jeux que des éditeurs sont pas prêts à prendre le risque de proposer. Voilà.
Et du coup, vous continuez votre activité historique dans le numérique? Qui serait là peut-être un peu pour soutenir un peu l'activité jeux de société.
Il faut bien manger, quoi.
Ouais, ça soutient financièrement parce que clairement, les jeux de société, avant de pouvoir se financer, c'est assez compliqué. Donc pour l'instant, ça reste plus un réel hobby qu'on essaye d'une manière ou d'une autre de développer pour en vivre et réussir à produire au moins un jeu par an, ce qui serait vraiment énorme pour nous. Mais à l'heure actuelle, on n'en vit pas.
Ouais. D'accord. Bah écoute, merci de ta participation. Bon courage.
Merci à toi.
Merci à vous.
Pour la campagne d'Ephemeris, du coup. Et pour
la campagne, hein.
Elle commence le mercredi 13 juin. C'est-à-dire la semaine
prochaine. Elle dure
jusqu'au 10 juillet.
10 juillet. Bah écoute, on essaiera peut-être de mettre l'interview du coup en début d'été, histoire que.
Ouais. Histoire que ça soit.
Ouais, que ça soit dans la continuité. Ouais.
Ça roule.
Bah écoute, merci à vous.
Passe une bonne fin de festival, là, la fin approche. Ça merci. Va pas trop fatigué?
Non, c'est un super festival, c'est vraiment sympa parce que c'est ni trop grand ni trop petit, donc c'est
et
vraiment
c'est ouvert agréable. À chacun aussi.
Ouais, et c'est tout public et c'est vraiment cool.
Et puis nous, même en termes d'éditeurs, je veux dire, c'est ouvert aux petits et aux grands, quoi. Donc les petits peuvent venir aussi présenter leurs trucs, quoi.
Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment chouette, j'aime bien.
Ok, très bien. Bah merci.
Merci Ciao. À toi.
Merci beaucoup. Salut.
Mais si tu le vois en train de tripoter ça ou de te faire des gestes, ça veut dire que tu ne peux pas respecter les consignes.
Ouais, c'est que tu fais n'importe quoi. C'est de toute façon, vu qu'on s'entend...
Alors, pour le test micro, je te propose que tu nous dises qu'est-ce que tu as mangé à midi.
Bah écoute, j'ai pas mangé super bien. J'ai mangé des flammekueche, c'était pas super.
Comment ça pas super les flammekueche?
Non, je rigole, non, je veux dire c'était pas très sain, tu vois. C'était pas forcément que c'était pas super, mais c'était pas très sain, c'était très bon. Mais du coup, je pense que pour
mais les 5 fruits et légumes par jour, c'est qu'en semaine, pas le week-end.
C'est quelque part, il y a des oignons dans les flammekueche, ça marche.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Et la crème fraîche? Ah non, ça marche pas.